Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Au Nord Kivu, l'armée a lancé ce jeudi matin autour de 6h une offensive contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans la cité de Bunagana, territoire de Rutshuru. L'objectif principal est de reprendre coûte que coûte les contrôles de cette cité. Pendant ce temps à Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense a appelé hier mercredi 15 juin le gouvernement à suspendre les accords et conventions conclus avec Kigali. Cet organe de l'État a lancé cet appel à l'issue de sa réunion présidée par le chef de l'État et élargie au président des deux chambres du Parlement. Il a également recommandé au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Le Conseil supérieur de la défense a par ailleurs salué la mobilisation de la population congolaise pour le soutien au FRDC et a chargé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et les commissaires généraux de la police nationale congolaise à prendre des dispositions pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout acte susceptible de troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Quel est-il faire de toutes ces décisions? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons professeur Jean-Claude Chilumba, il est député provincial et cadre de l'IDPS, c'est parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Professeur Jean-Claude Chilumba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, il est professeur de droit international et il est député national et vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir professeur Jacques Joly.
Bonsoir, sauf que je ne suis pas professeur de droit international, je suis professeur de droit public.
Constitutionnel.
Voilà.
Ok, merci beaucoup pour la correction. Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités des instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir professeur Dadi Salé.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Merci.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, le Conseil supérieur de la défense de la RDC dénonce une énième agression rwandaise et recommande au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Au cours de sa réunion extraordinaire tenue hier mercredi tard dans la soirée, le Conseil supérieur de la défense affirme sa détermination de défendre chaque centimètre du territoire congolais et salue la forte mobilisation patriotique de la population. Il recommande par ailleurs au ministre de l'Intérieur et à la police nationale de prendre toutes les dispositions pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et élargi au président des deux chambres du Parlement, la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense a dénoncé l'occupation et le pillage de la cité de Bunagana par le Rwanda et prend des mesures nécessaires. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.
La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation, le Conseil supérieur de la Défense a pris des mesures suivant. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes du sol congolais. 2. La demande au gouvernement de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda.
Le Conseil supérieur de la Défense recommande au gouvernement de doter à l'armée des moyens nécessaires pour défendre le pays.
A également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national.
Il salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents angolais et kényans et réaffirme la volonté de la RDC de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Professeur Jean-Claude Chilumba, je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Les FRDC ont lancé la contre-offensive depuis ce matin pour reconquérir la cité de Bunagana. Et un petit commentaire par rapport à cette actualité, professeur Jean-Claude Chilumba.
D'abord, il faut noter le leadership particulier que le chef de l'État imprime sur la nation à l'occasion de cette 1e agression. Vous avez vu que le Rwanda qui est venu dans ce pays dans un contexte tout à fait particulier, c'est lui qui a vu un Mobutu fatigué et qui l'a trouvé un peuple apparemment disposé à accueillir Laurent Désiré Kabila avec lui derrière les troupes rwandais. Ce Rwanda a cru que ce peuple congolais était un peuple disposé à tout moment à lui vendre son territoire, à lui vendre sa sécurité, à lui vendre sa souveraineté. Et c'est cette interprétation de la prétendue naïveté que le Rwanda a gardée jusqu'à aujourd'hui dans sa doctrine militaire et dans son petit orgueil de penser que le Congo demeure ce pays qui a été pendant longtemps géré par des préfets, par lui imposé ici à Kinshasa, ce n'est plus ça le cas. À ce niveau, il faut saluer le leadership du chef de l'État, du gouvernement de la République, mais aussi l'engagement de toutes les institutions du pays et de notre population dans cette affaire. Le communiqué du Conseil supérieur de la Défense l'a prouvé et que nous sommes désormais dans cette optique qui dit que le Rwanda nous agresse. Vous savez qu'il y a un temps, dans ce pays, il était difficile de pouvoir se prononcer sur une telle réalité. Et ce pays belliciste et militariste nous avait même imposé le silence, de sorte que la réalité qui règne à Kigali, où une minorité continue de régner sur la majorité, lui impose de vivre avec nous dans cette situation où il devait être un pays dominateur. C'est ainsi que désormais nous aurons compris que la liberté, ça se gagne, hein, ça ne se négocie pas avec un petit pays qui s'est entouré de précautions, du chantage. La liberté, ça se gagne. C'est là que je félicite tous les Congolais, nos institutions, nos autorités de cette prise de conscience. Et je crois que c'est la dernière tentative de M. Kagame et j'imagine même que ça sonne sa fin.
Oui, professeur Jean-Claude Chilumbay, on revient sur la réunion qui s'est tenue hier dans la soirée du Conseil supérieur de la Défense et qui a appelé à l'issue de cette réunion le gouvernement à suspendre les accords et conventions conclus avec Kigali. Je rappelle ici, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas membre du gouvernement ni son porte-parole, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces accords et conventions qui lient le gouvernement congolais au Rwanda?
Je note, comme enseignant de droit diplomatique, que le langage du gouvernement, plutôt du Conseil supérieur de la Défense, est clair. Lorsqu'on dit qu'il faut suspendre tous les accords, c'est que en guerre, dans la situation où nous nous trouvons, même si classiquement on n'a pas l'habitude d'enseigner l'état de la guerre comme cause de rupture des relations diplomatiques, le premier de ces accords s'appelle bel et bien celui qui a institué les relations diplomatiques entre nous et le Rwanda, cet accord bilatéral, parce que nous sommes en état d'inimitié prononcée, il faudra s'assumer et rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je ne suis bien évidemment pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il y ait des accords secrets qui auraient été signés entre l'actuel gouvernement ou les actuelles autorités du pays avec le Rwanda. Il n'y a pas d'accord secret. Par contre, nous avions pensé qu'on avait affaire à des hommes civilisés qui avaient compris des tares qui les ont rongés pendant un certain temps et qu'on pouvait faire des relations d'égal à égal parce qu'ils aussi avaient compris que nous n'étions plus leurs préfets ici. Mais c'est déjà impénitent. Kagame, c'est pas quelqu'un qui va comprendre. Donc, il faut suspendre ces accords qui ne datent pas que d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle des accords, on voit l'ensemble des accords officiels qui ont répondu aux principes classiques de conclusion des traités. Nous ne parlons pas des accords de l'Emera, nous ne parlons pas des accords flous qui ont été signés sous le dos de notre population, nous parlons des traités et autres accords signés avec le Rwanda. Il faut les suspendre.
Professeur Jacques-Claude Chilumbay, si je vous comprends bien, cela veut dire que si le gouvernement suit convenablement les recommandations du Conseil supérieur de la Défense, et donc il peut aller jusqu'à rompre les relations entre les Rwanda et la RDC?
C'est par là qu'il faut commencer, parce que les relations diplomatiques, surtout au niveau où elles sont établies entre nous et le Rwanda, au niveau des ambassades, c'est-à-dire qu'elles symbolisent la perfection des relations entre deux États, et qu'aujourd'hui, que notre gouvernement s'est clairement prononcé que nous sommes agressés par ce petit pays, il est clair qu'on ne peut pas continuer d'entretenir ces relations hypocrites. Il faut les suspendre et vivre avec le Rwanda comme un État ennemi, personne n'en mourra. Et ça va nous permettre de nous préparer en conséquence et d'agir avec le Rwanda en ayant clairement en tête que nous collaborons avec un État ennemi, un État voyou.
Oui, on voit que le Conseil supérieur de la défense opte pour des sanctions autres que les recours à la force pour obliger les Rwandais à retirer ses forces du territoire national. Et qu'est-ce qui peut justifier cette option, professeur Jean-Claude Chilombaï?
C'est graduel. Nous vivons dans un monde globalisé. Nous sommes dans une communauté internationale où nous avons toujours ce besoin de montrer et de prouver de notre bonne foi à la face du monde. C'est des mesures graduelles, mais tout observateur averti a compris que nous sommes nous aussi désormais radicalisés et que nous n'accepterons pas de servir des valets à Kagame. Et c'est dans cette optique-là, on ne se comporterait pas de manière brutale. Nous ne sommes pas un pouvoir militariste comme celui de Kagame. Nous sommes en train d'évoluer avec des mesures graduellement prises. Et bien évidemment, il a été annoncé que rien ne sera épargné si cet adversaire n'aura pas compris que nous sommes dans cette position d'échanger de position.
Et le Conseil supérieur de la défense ne pourrait-il pas recommander au gouvernement d'annuler purement et simplement ces accords au lieu de les suspendre?
La suspension, c'est une mesure, je dis, graduelle. L'annulation ou le retrait d'un accord demande plusieurs modalités. Parce que la fin d'un accord signifie qu'on vide tous ses passifs. Alors la suspension, c'est une mesure graduelle. Il vous a été annoncé que rien ne sera épargné pour que le Congo retrouve sa paix. Donc moi, je pense que on ne peut pas croire que nous jouons à la naïveté. Nous sommes en train de fonctionner comme un État civilisé, en train de prendre graduellement et de manière méthodique ces mesures. C'est aussi un message que nous passons en même temps au petit Rwanda et à la communauté internationale des États dans son ensemble.
Professeur Jacques Joly, vous êtes professeur des droits constitutionnels, vous êtes aussi député national et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. La contre-offensive a été lancée depuis ce matin pour reprendre la cité de Bounagana. C'est une décision qui était attendue par beaucoup de gens. Et comment vous réagissez à cette nouvelle, professeur Jacques Joly?
Et c'est un devoir sacré, comme il a été dit, qu'on quelques centimètres de notre territoire ne soit occupé par une force étrangère, par procuration ou directement. Donc, ce qui s'est passé le 13 juin, c'était inadmissible. Ces deux éléments du M23, mais en fait, l'armée rwandaise, parce qu'elle a reconnu elle-même dans un communiqué qu'elle était en train de faire une opération transfrontalière, et donc, profitant, n'est-ce pas, de la position stratégique de Bounagana, qui se trouve, n'est-ce pas, à la lisière de la frontière au niveau de Uganda et du Rwanda, qui sont partis de Mont-Savignon pour prendre nos troupes par derrière, et la contre-offensive était inévitable, dès lors que nos troupes n'étaient pas très loin, y compris derrière les troupes de la MONUSCO, qui étaient à quelques 4 kilomètres, patron de Tchenguerero pour récupérer. Donc nous savons que, et nous sommes sûrs que nous allons récupérer la ville malgré les pillages opérés par des forces étrangères. Et au-delà de cela, l'appel de la communauté internationale et tout le message du Conseil supérieur de la défense est clair. Nous espérons que tous nos voisins vont nous permettre de traquer, d'éradiquer ces groupes armés, ces terroristes de M23.
L'autre décision, c'est celle du Conseil supérieur de la défense portant suspension des accords et conventions avec le Rwanda. Certainement que cela ne peut pas, n'est-ce pas, se faire sans conséquences. Professeur, quelles pourraient être les conséquences sur le Rwanda et la RDC de la suspension de ces accords et conventions?
Mais les accords sont les expressions de la souveraineté des États. La République démocratique du Congo, puis particulièrement le président Félix Antoine Tshisekedi, a voulu montrer sa bonne foi, parfois même contre la volonté du Congolais, en signant des accords, notamment permettant à Rwandair d'avoir des vols pratiquement quotidiens dans sur notre territoire, de signer un accord qui donnait pratiquement toute la production de la Sakima à une raffinerie au Rwanda, à compter les autres accords commerciaux et autres. Mais face à un voisin dont la mauvaise foi est évidente. Je crois qu'il était plus que temps de suspendre ces accords, conformément à la volonté des Congolais, qui ne veulent même plus commercer de tout ce que la viande le long de ces frontières. Donc, on ne peut pas construire sa pseudo-puissance comme veut le Rwanda, en organisant les désordres, les pillages dans les pays voisins. Cette forme d'intégration négative de l'économie rwandaise dans notre pays doit, n'est-ce pas, être revue. Et au-delà de la suspension, il faudra revoir toute l'architecture économique de notre pays pour éviter désormais que nous soyons dépendants de ces pays voisins pour aller exporter nos histoires ou nos produits vers l'océan Indien et privilégier le voie nationale, notamment la route nationale numéro 2, la route nationale numéro 4, pour que nos produits passent désormais du nord du sud du Kivu et à l'Ituri, pas à Kisangani, ce qui va revitaliser notre économie nationale.
Et s'il faut se conformer à cette recommandation du Conseil supérieur de la défense, on peut s'attendre à une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays de la part du gouvernement congolais?
Mais nous ne sommes pas encore là. Je crois que la première mesure, c'était la suspension de Rwandair. Là, nous sommes à une seconde phase. Il appartiendra à l'autorité suprême de voir s'il faut aller rompre les relations diplomatiques. Pour le moment, l'ambassadeur du Rwanda est ici. Les diplomates congolais sont aussi au Rwanda. Mais les relations diplomatiques doivent être des relations amicales et des règlements pacifiques, n'est-ce pas, des différents. Lorsque vous avez un pays qui a fait de la force à la fois interne et externe, sa stratégie de survie, ben écoutez, cet État est un État dangereux, comme on appelle en droit international un rogue state. Je crois qu'il est important que la communauté internationale, qui est un peu dans une naïveté, sous base d'une sympathie post-génocide, puisse comprendre que M. Kagame n'est pas un acteur de paix, mais un acteur de déstabilisation de la région. Il est en conflit avec l'Ouganda, ils essaient de régler, il est en conflit avec le Burundi, il est en conflit avec la RDC, il est en conflit avec la Tanzanie. Donc c'est l'élément perturbateur de la paix dans la région des Grands Lacs.
Et le Conseil supérieur de la défense a aussi estimé que le gouvernement devra doter le FRDC des moyens nécessaires pour assurer la défense du territoire national. Et je me rappelle que cela a toujours été votre cheval de bataille, professeur Jacques Joly. Et quel est le pourcentage du budget national que l'on attribue à la défense nationale? Et il faut, à votre avis, quelles ressources pour que notre armée puisse avoir des moyens suffisants lui permettant, n'est-ce pas, d'accomplir ses missions?
Mais pour le moment, nous sommes avec un budget de 3,9%, ce qui est inférieur à la moyenne régionale et africaine. Et si on tient compte de la superficie de notre pays, des 2 345 000 km², il est important que nous arrivions à un budget qui doit être le budget le plus important dans notre pays. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, l'éducation, la santé, mais tout cela, il faut qu'il y ait une assurance. Voilà pourquoi nous avons toujours plaidé pour un budget qui doit atteindre au moins 8 à 10%. Et nous sommes en train d'avancer parce que la loi de programmation que nous avons votée prévoit d'arriver à un budget de la défense de 1 milliard sur une moyenne nationale annuelle globale de 10 milliards. Donc si le budget est 10 milliards et que nous avons chaque année 1 milliard, nous sommes capables d'avoir nos 150 000 hommes rationnellement en charge, mais surtout, il est important que nous puissions récupérer le retard créé par la cannibalisation de l'armée durant les 18 années qui viennent de passer. Nous devons monter en puissance en termes de la force aérienne, de forces spéciales et des équipements spéciaux pour que finalement nous puissions nous faire respecter dans la région. Quand vous êtes un pays comme le Congo, qui a énormément de richesses, eh ben nous avons des voisins qui deviennent gourmands, qui veulent prendre, n'est-ce pas, déstabilisant la partie la plus utile de notre pays de l'Est. Il faut donc que nous reprenions notre place pour assurer de manière efficace la souveraineté de l'État, et nous croyons qu'un budget qui peut atteindre au minimum 1 milliard, sur les 10 milliards de budget national, je crois que nous pouvons arriver à faire face à toutes ces anomalies. Et c'est vrai que nous avons 9 voisins, et ce n'est pas toujours facile de tenir le 9, mais il faut, si nous voulons survivre comme État, assumer et assurer cette charge.
Professeur Jacques Joly, j'ai posé la même question au professeur Jean-Claude Tshilumbay. Il a fallu qu'il y ait cette crise entre la RDC et le Rwanda pour que le gouvernement congolais prenne finalement conscience, n'est-ce pas, de la nécessité de doter l'armée des moyens nécessaires pour permettre d'assumer, d'accomplir ses missions.
C'est dommage. Nous savons tous l'état dans lequel se trouve notre armée. Ça a été un secteur plus ou moins négligé. Il faut dire aussi que tout ça, c'est lié aussi aux ressources. Quand vous avez un budget de 4 milliards, comment voulez-vous prendre 1 milliard pour donner à l'armée? Ce qui fait que si vous avez un pays, un budget pauvre, vous allez aussi avoir un budget de défense pauvre d'une armée pauvre. C'est pourquoi, au-delà de la dotation d'un milliard de l'armée, il est important que la République, et d'après tous ses enfants, puisse... nous puissions nous concentrer pour éviter l'évasion des ressources, la corruption. Si nous arrivons demain à avoir un budget de 50 milliards, ce qui n'est pas impossible quand on voit des pays comme l'Angola, et nous pouvons doter notre pays de moyens conséquents et surtout nous équiper de manière conséquente et moderne.
Merci, professeur Dadi Salé. Vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre analyse aussi par rapport à la suspension des accords et conventions avec les Rwanda.
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi les autres co-débatteurs. Enfin, l'analyse est simple. Si on doit suspendre les protocoles d'accord, les accords, les conventions avec Kigali, je pense que ça devait déjà être fait depuis très longtemps. De manière très directe. Et parler encore une fois de cette politique que j'appelle naïve, et en suivant effectivement un de nos co-débatteurs, le professeur Jean-Claude, on comprend effectivement qu'ils disent effectivement que c'est désormais qu'ils comprennent que la liberté s'égale, ce qui est triste. Ils disent effectivement qu'ils sont en train de constater qu'il y a une unité prononcée entre ces deux États. Ils disent encore une fois que sont en train de constater effectivement que tu ne traites pas avec des gens civilisés. J'ai noté un peu ce point. Je me dis, gouverner, c'est juger, c'est prévoir. Et on se dit effectivement que normalement, avant de prendre le pouvoir, tu devais connaître tout cela. Mais c'est ce qui m'étonne, c'est que apparemment, on a avancé en tâtonnant. Et en faisant un peu cette politique d'Autriche et cette diplomatie un peu naïve, et justement d'être un peu direct, parce que je n'ai pas d'autres mots. Et je pense effectivement que le professeur notre aîné Jacques Loupat bien dit, les accords sont les expressions des souverainetés. Et qu'effectivement, il a bien dit, je suis d'accord avec lui, qu'il y a des accords qui n'ont pas été en grande partie en accord avec la population. L'exemple de la raffinerie, l'exemple des accords avec l'Ouganda, s'il faut les citer. Plusieurs accords, effectivement. Donc, on sent, effectivement, que nous avons confondu les choses. D'abord, c'est le peuple, selon la question de la Constitution, qui est l'espérance et primaire. Le chef de l'État n'est que le garant de la nation et premier serviteur du peuple congolais. Donc, c'est la volonté du peuple qui doit s'appliquer, et non la volonté du chef de l'État. Ça, c'est une confusion, bien la volonté d'un gouvernement. Le gouvernement est au service du peuple congolais. Alors, le chose semble pour moi être trop clair et qui a été très mauvais décision. Ce qui fait que pour les conseils supérieurs de la défense, ben oui, demander effectivement que le gouvernement prenne un pas. Nous sentons qu'il y a une bonne volonté et des bons pas, gouvernement et chef de l'État, dans le bon sens, en fin de compte, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais cela étant, je pense que tout ce dont le peuple congolais a besoin, c'était de comprendre qu'on annonce déjà qu'il y a étendu, pas qu'on va demander au gouvernement. Il y a quand même collaboration entre les instances. Les gouvernements, tout le monde était représenté. Le Parlement, le Président, les conseils supérieurs. Donc, le peuple congolais a besoin des décisions et des faits, pas des promesses. On va demander encore à qui. Et pourtant, tout c'était là. Donc, toutes ces histoires des papiers et des discours doivent finir. Les accords devaient déjà être suspendus depuis bien longtemps, parce qu'il y a eu des preuves. Non seulement de la population, de l'armée et de tout le monde que le Rwanda nous a attaqués et continue à nous attaquer.
Oui, professeur Dadis Allié, autre décision qui tombe à point nommé, le Conseil supérieur de la défense qui a chargé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et le commissaire général de la police nationale congolaise de prendre des dispositions pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout acte susceptible de troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période de crise. Votre réaction par rapport à cette recommandation du Conseil supérieur de la défense, professeur Dadis Allié?
Oui, je le comprends et que c'est un peu trop diplomatique. Et c'est normal, on n'a pas besoin qu'on puisse commencer à faire des chats à l'homme. Mais il faut noter une chose, parce que ces gens de langage, c'est bien, mais ça décourage parfois. Vous savez, quand un boxeur va se battre, il a besoin effectivement d'être motivé. Et l'armée, c'est la même chose. Et parfois, c'est motivé, on peut injurier un peu l'adversaire, on peut taper un peu dessus, nous allons se battre, voilà, et des chansons, etc. Donc, c'est clair, noir sur blanc, qu'on ne doit pas transformer la chose en une bataille qui va le tenir parfaitement bas. Si nous parlons du Congo, puis la République démocratique du Congo, et qu'il faut motiver les gens. Donc, en motivant les gens, donc, tous, nous devons nous impliquer, comme nous sommes en train d'arrêter hier nos partisans, qu'on vit énormément, surtout avec la prise de Bunagana et les efforts fournis. On félicite toute la population congolaise par rapport à tout ce qui s'est fait. Nous devons aller plutôt dans ce sens-là. On n'est plus dans un moment où nous devons relativiser. C'est une erreur stratégique encore une fois pour moi, même si je comprends qu'il y a une petite prudence de peur qui est chez nous, qui vient s'attaquer peut-être en guillemets au randophone pour être secret. Ça, je comprends. Mais là, est loin d'être la question. La question, c'est qu'il faut motiver les pensées, toute la population et avoir un langage clair, noir sur blanc.
À votre avis, professeur Dadis Allié, comment peut-on amener une population habituée à des informations qui font état des attaques sur son territoire des forces étrangères à faire la part des choses, à ne pas stigmatiser des personnes tout simplement parce qu'elles feraient partie d'une communauté donnée?
Voilà, à ce moment-là, nous devons avoir, et j'espère qu'on est en train de construire ce leadership, on doit avoir un leadership fort, un leadership qui ne consomme pas de querelles du parti. Les querelles, parce que moi, je dois être président, je dois être candidat. Non. Quand la maison brûle, chez nous, comme panafricanistes, ça va, tout le monde s'arrête et voit, on éteint d'abord un peu de feu. Donc, les langages devaient être uniques. Unique, ça signifie nous défendons la nation congolaise. Et tout le monde se met debout. Et vous allez voir que le peuple congolais, ce n'est pas un peuple compliqué. Le peuple congolais sait suivre les leaders, mais malheureusement, nous avons eu juste un peu plus contraire. Très souvent de mauvais leaders prennent de très mauvaises décisions, comme on est en train de le voir. Donc, stigmatiser la population, je peux vous assurer, comme mes aînés viennent de le dire, je vous assure, le peuple congolais est un peuple qui n'est pas un peuple religieux, qui n'est pas un peuple qui passe en guerre. Aînés, messieurs les journalistes, je voudrais considérer ce qui vient de se passer sur trois niveaux. L'aspect, la considération de l'aspect global de la situation à court, moyen et long terme est très important. Parce qu'on ne peut pas seulement considérer le fait d'avoir récupéré Bunagana. Nous devons comprendre que le chef de l'État, le gouvernement, devait depuis très longtemps avoir des aspects stratégiques de la défense très clairs pour tout le monde. Et on l'a à longueur de journée. Ce qui n'était pas fait. Donc là, nous sommes un peu surpris que l'Ouganda puisse nous attaquer. C'était une très mauvaise lecture. L'Ouganda, jusque-là, n'est pas en sincérité avec les Congos, ne l'a jamais été pendant ces 20 ans. Sauf seulement pour le chef de l'État, je n'ai pas compris comment est-ce que normalement, après la déclaration du chef d'état-major de l'Ouganda, on devait rompre les accords avec les Rwandais. Préventivement d'abord, et leur demander de quitter les sols congolais. Mais juste là, nous sommes en opération avec ce système. C'est qu'il y a encore une erreur stratégique. Donc on va d'erreur en erreur, comme le professeur Jean-Claude l'a dit. Apparemment, nous sommes en train de comprendre qu'il y a une erreur. Il y en a depuis très longtemps. On doit comprendre que c'est bien que la situation est grave et il n'y a que des coups d'eau qui font déborder la base. Et quand on dirige, on doit comprendre que l'histoire.
Merci, professeur. On va maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces débats. Professeur Jean-Claude Tulumbay, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu.
William, nous sommes depuis la ville de Bukavu. Je pense à mon humble avis qu'il y a un fossé entre la population congolaise et ses dirigeants sur l'appréhension de la énième agression rwandaise sur notre territoire. En effet, alors que la population veut des mesures très fermes contre le Rwanda, notamment la rupture des relations diplomatiques, la dissolution de tous les accords économiques, nous constatons malheureusement que le gouvernement prend des mesures qui caressent Kigali dans le sens du poil, alors que depuis plus de 20 ans, les troupes rwandaises commettent des crimes de guerre aux conséquences incalculables vis-à-vis de la population de l'est de notre pays. L'on se demande est-ce une complaisance ou simplement l'incapacité de défendre les paisibles citoyens dont ils ont la mission régalienne de protéger.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi.
Non, il n'y a aucune complaisance. Il faut noter que dans les relations entre États, les facteurs d'appréciation des décisions des politiques étrangères ne sont pas que militaires. Il y a d'autres aspects. Quelle est notre position actuellement en termes de relations dans la région avec les autres pays? Quelle est notre position sur la scène internationale? Quels sont les imprévisibles qui peuvent s'avérer fatales pour nous si jamais nous nous engageons dans une décision brutale? Les mesures telles qu'elles sont en train d'être prises de manière graduelle prouvent effectivement la maturité politique de ce pays géré désormais avec une certaine rationalité. Et lorsque l'on a procédé par la rupture d'accords commerciaux, notamment avec Rwandair, et qu'on a pris les premières mesures, c'était des mesures incitatives pour que ce petit pays voyou comprenne. Nous n'avons pas que la force comme langage, bien qu'il ne faut pas ignorer que c'est un élément déterminant dans ce genre de relations. Maintenant, ces mesures vont être prises graduellement. Il ne faut pas que notre population se laisse berner par les chantres de la guerre et des méthodes fortes à l'aveuglette, non. Ici, le gouvernement a un miroir. Il a aussi un tableau dans lequel il regarde et il stratifie ses mesures selon qu'il pense leur efficacité plausible. À ce jour, bien évidemment, lorsque le Conseil supérieur de la défense, dirigé par le chef de l'État, recommande la suspension des accords, j'insiste, on n'a pas écarté certains accords. J'ai dit que le plus grand de ces accords-là, c'est celui qui noue les relations diplomatiques, un accord bilatéral entre nous et le Rwanda. Et ça n'exclut pas la possibilité qu'il soit déclaré la rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays. Parce que j'insiste, dans ces relations-là, l'échange des diplomates au plus haut niveau, au niveau des ambassadeurs de plénipotentiaires, extraordinaire, c'est une preuve que les pays sont amis et vivent en paix. À partir du moment que la guerre est déclarée, parce que nous l'avons affirmé, nous disons que notre pays est agressé par le Rwanda et ce n'est pas toujours régulier de le citer comme c'est le cas cette fois-ci depuis qu'il nous a imposé des préfets ici dans ce pays. Et là, c'est clair que nous avons déjà cette tangente pour lever des mesures qui vont être adéquates par rapport à la situation. Lorsque le professeur Salé dit que nous n'avions pas compris, l'un s'en faut. Nous savions et nous savons que le Rwanda nous a fait la guerre. C'est pas aujourd'hui que le Rwanda a commencé, bien qu'avant nous ça n'a pas été facile de le citer par le nom. Mais nous ne pensons pas avoir commis l'erreur si nous pensions placer les relations entre non seulement nos deux pays mais les autres pays de la région au plan fonctionnel pour faciliter la communication, l'échange des biens, la libre circulation des personnes et la possibilité que ces relations soient fondées sur une production collective afin de pacifier la région par cette voie-là. Nous n'étions pas naïfs, mais c'est une manière civilisée de penser une cohabitation, surtout avec des pays que nous ne pourrons jamais déplacer. On ne va pas jeter le Rwanda dans le lac Kivu, il restera bien à nos côtés. Mais à ce niveau maintenant, lorsque l'on comprend que le problème c'est l'individu, Kagame ce n'est même pas le Rwanda, je crois qu'il faudra qu'on réfléchisse un peu plus, qu'on avance notre réflexion dans le sens de faire en sorte que le Congo aussi influence la démocratie au Rwanda, que la minorité ne continue plus de diriger la majorité, parce que pour autant que la minorité dirigera la majorité au Rwanda, Kagame vivra sur ce qui vive, de penser que son pouvoir ne tient qu'aux armes, ne tient qu'à cette politique agressive.
Merci
et à l'interne et à l'externe.
Merci professeur Jean-Claude Kilumba et professeur Jacques Dioli. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle une fois de plus de Bukavu au sud Kivu.
Mardoché Moussaada, depuis la ville de Bukavu. La décision du gouvernement congolais et du Conseil supérieur de la défense de notre pays tombe à point nommé. En effet, ça fait un bon bout de temps que la République démocratique du Congo est victime des agressions du Rwanda sous diverses formes, particulièrement à l'Est. Les forces armées de la République sont capables de mettre hors d'état de nuire ces ennemis du développement. Mais malheureusement, l'infiltration de notre armée et de la police nationale est victime des agressions du Rwanda sous diverses formes, particulièrement à l'Est. Il serait crucial de songer à la mutation militaire, car depuis le port de Kabila, il y a des officiers militaires qui sont devenus comme des chefs coutumiers dans certains milieux et il s'avère que ces officiers refusent même la mutation quand on leur propose ça.
Professeur Jacques Joly, votre réaction?
Je comprends et je partage l'analyse de notre frère. Les forces armées aéroises d'hier comme les forces armées de la République démocratique du Congo sont capables d'assurer de manière efficace l'intégrité de notre territoire, de protéger notre population. Mais pour ça, il faut que cette armée-là soit, équipée, soit formée, soit casernée, soit dans les conditions d'assumer ses charges, ce qui est en train d'être fait. Deuxièmement, la question de l'infiltration. Oui, c'est une question fondamentale. Elle est d'abord générale dans la mesure où un État doit connaître sa population. Aujourd'hui, plus de 40 ans après les derniers recensements, il n'y a eu plus de recensement. Il n'y a plus d'identification des Congolais. Et tout cela nous amène parfois à ne pas connaître qui est qui. Nous n'avons pas la carte d'identité. C'est là encore beaucoup plus grave au sein de l'armée à cause, n'est-ce pas, d'abord de l'AFDL, qui nous a amené dans ses rangs des éléments de l'armée rwandaise, des éléments de l'armée burundaise et des éléments de l'armée ougandaise. Si les Ougandais et les Rwandais sont partis, il y a d'autres qui sont restés. Et c'est ça le vrai problème. Et à la suite de cela, tous les brassages que nous avons eu, les mixages, et encore aujourd'hui, la réclamation d'M23 appuyée par le Rwanda, c'est qu'on puisse intégrer plus de 6500 officiers soldats dans l'armée congolaise. Et les drames, c'est que ces officiers-là, qui vont occuper des fonctions et des ratios des généraux issus d'un seul camp, posent des problèmes, et alors que la Constitution dit que la représentation de toute la nation, c'est de l'armée, doit être équitable. Nous avons des régions où plus de 20 régiments sont commandés par des officiers issus de ces groupes armés et qui n'ont jamais quitté leur colline et qui tantôt vont dans les forces armées de la République démocratique du Congo, et puis ils quittent avec grâce et armes, ils deviennent des M23 ou des CNDP ou même des RCD. Et ces gens-là posent un problème de loyauté et c'est ça l'infiltration. Donc c'est un travail qui doit être fait. Et j'espère que le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a que moins de 2 ans à la tête de cette République, en termes de capacité majoritaire autonome, va nous amener à entrer dans cette réforme de l'armée, qui commencera bien sûr par la maîtrise de ressources humaines, dans le recrutement, être sûr que nous sommes congolais, dans la formation et dans l'entraînement. Et ensuite, les casernements, et enfin, l'équipement et les infrastructures. Donc, je crois qu'il y a urgence aujourd'hui que le plan des réformes de notre armée, qui commencera par les nettoyages, je n'aime pas ces termes-là, ça peut donner lieu à certaines interprétations, mais nous devons exfiltrer de notre armée tous ces cas. Voilà.
Professeur Joly, nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Et si les mesures recommandées par le Conseil supérieur de la défense ne font pas reculer le Rwanda, jusqu'où pourrait aller la RDC, professeur Jacques Joly? C'est votre conclusion.
La RDC doit aller jusqu'à ce que ils puissent puisse récupérer l'intégrité de son territoire. Donc, ce que fait le M23, c'est du terrorisme et du chantage au service du Rwanda, qui veut continuer à avoir de l'influence chez nous, en créant ces groupes armés qui changent de nom. Donc, nous n'allons pas nous arrêter. Aujourd'hui, on est à la porte de Bunagana, donc on est déjà vers premier 10. On continue à pilonner. Je crois que nous allons récupérer notre territoire et nous sommes sûrs que toutes les nations, tous les États de l'Afrique de l'Est connaissent et savent maintenant que c'est le Rwanda qui est en train de nous en arriver. Et comme on l'a dit, s'il faut qu'on aille au Rwanda, on ira. Mais le Congo n'est pas un État belliqueux. Nous voulons tout simplement restaurer l'intégrité de notre territoire pour que notre population vive en paix et que nous construisions de son développement.
Merci, professeur Dadi Salé. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Junior Bompongo, à partir de la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement congolais se sent obligé de suspendre les accords signés avec le Rwanda parce que le Rwanda est le pays agresseur. Sans qu'il nous dise quels sont ces accords. Posons-nous la question de savoir de quelle manière ces accords ont été signés. Est-ce que c'était-il en respect de la procédure des ratifications au niveau du Parlement? Au regard de ce qui précède, suivant les mesures annoncées après le Conseil supérieur de la Défense, je dirais que suspendre ces accords, c'est bien, mais le mieux à faire est de couper toutes les relations diplomatiques qui existent avec le Rwanda et par le prochain déclarer ouvertement la guerre avec ce pays, car c'est un secret des polichinelles que les Rwandais n'avaient plus la paix, mais plutôt la guerre.
Professeur Dadi Salé, votre réaction?
Oui, rapidement, l'ami a totalement raison. C'est ce que je disais au professeur Jean-Claude. Tout le monde sait. Tout ce qu'il répète, apparemment, c'était seulement le gouvernement et le président qui ne les savaient pas. Ils avaient affaire, effectivement, à des mentelles, à des gens qui ont des intérêts dans ce sens-là. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, parce que c'est une évidence. Et que le vrai problème que nous avons, c'est effectivement cette politique un peu d'Autriche et un peu cette diplomatie naïve où nous voulons nous faire passer comme des malins. Et j'aimerais préciser qu'avec notre philosophie, c'est-à-dire que c'est l'intérêt du Congolais qui doit passer au-devant de tout, pas l'intérêt du leader congolais. Ça, c'est très différent. Ou bien du président, ou bien du gouvernement. L'intérêt du Congolais, et malheureusement, ça ne semble pas avoir été le cas, même à l'époque de Mobutu et beaucoup de choses qu'on a vécues.
Professeur Dadi Salé, nous sommes malheureusement à la fin de l'émission, on va conclure. J'ai posé la même question au professeur Jacques Joly. Si les mesures recommandées par le Conseil supérieur de la Défense ne font pas reculer le Rwanda, jusqu'où pourrait aller le gouvernement congolais?
Déjà, je pense que ces mesures-là ne vont pas faire reculer vraiment le Rwanda. Il faut les appliquer. C'est-à-dire qu'il faut déclarer d'abord la guerre et pas demander des formulations d'existence de non. On déclare la guerre avec l'article 86, nous fermons des frontières, on appelle notre ambassadeur, donc on coupe d'abord tout. Mais écoutez, je dis à tout le monde, en coupant tout, nous allons reprendre peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. On doit se faire respecter. C'est une question de force. En diplomatie, il s'agit des rapports de force. Quand on agit en faiblesse, ben naturellement, on nous prend dans notre faiblesse avec cette diplomatie naïve où on pense qu'on connaît là où on va et pourtant apparemment, c'est un peu comme si on n'a pas de boussole, on commence un peu à tâtonner. Donc, le gouvernement de la République et les présidents doivent respecter ce que le peuple congolais dit. Moi, avec ma philosophie politique et maire, le président, c'est mon serviteur. C'est mon premier serviteur et travailleur et le gouvernement. S'il ne respecte pas ce que nous voulons, le peuple congolais, et on en a marre des histoires du Rwanda. On doit prendre des mesures sérieuses. Ce n'est pas question de va en guerre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté le fait des lois, ça va, d'avoir une armée dissuasive? Le budget est là, c'est vrai. Où passent les 10, 15, 20 milliards que les gens pillent matin et soir? Pourquoi est-ce qu'on donne des jeeps et on dépense de l'argent dans des histoires, parfois on se pose des questions pour quelles raisons? On les disait, des voyages. Non, tout cet argent doit aller dans des priorités. C'est ça, diriger. Le management, on doit connaître la priorité pour la nation.
Merci, professeur Dadi Salé. Je considère ça comme votre conclusion. Professeur Jean-Claude Chilumba, en conclusion, la même question. Les mesures recommandées par le Conseil supérieur de la Défense, à votre avis, pourraient-elles faire changer la donne sur le terrain?
Bien évidemment, c'est des mesures qui vont faire changer la donne parce qu'elles relèvent d'une observation
que d'abord le chef de l'État a fait est que c'est des mesures qui tiennent compte de différents rapports de ceux qui sont sur terrain, et les hommes des troupes, et elles vont devoir faire changer la situation pourvu qu'elle soit strictement appliquée.
Merci, merci à tous les trois professeurs, professeur Jean-Claude Tchilumbay, professeur Jacques Joly et professeur Dadi Salé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Hippolyte Kapanga qui était à la technique et à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation Guy Maté, merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.